6h12 sur Inter. Des vies françaises à présent ce matin. Nous partons quelque part en Bretagne. On ne peut pas vous dire précisément où parce que l'homme que vous allez entendre ce matin, eh bien, il vit caché et il exerce son activité de manière clandestine. C'est donc le retour des portraits sonores signés Charlotte Perry.
Faut que je fasse un choix. Soit j'arrête, soit je passe dans la clandestinité. J'arrête de déclarer mon troupeau, je le fais disparaître, c'est-à-dire que l'administration n'en a plus connaissance. Donc c'est ce que j'ai fait.
Des animaux non pucés.
Où ça?
Bah le bouc. Bella, viens. Viens Bella, Bella. Viens au pied.
Vous vous appelez comment?
Charles, du coup.
C'est, on peut le dire, c'est un faux prénom.
Oui. Peut-être que ce que j'ai à dire mérite un petit peu d'anonymat.
Et on dira pas vraiment où on est non plus. On est sur votre ferme quelque part en Bretagne.
C'est ça.
Et tout ça, on peut pas le dire parce que vous exercez de manière clandestine en fait.
J'ai été déclaré en tant qu'éleveur avec des brebis. J'ai arrêté de déclarer à l'administration mon troupeau à la suite de nombreux contrôles à répétition liés à ce qu'on appelle l'identification des animaux d'élevage. Donc des brebis qui, depuis 2010, sont soumis à une nouvelle forme d'identification qui oblige l'usage de puces électroniques à poser aux oreilles des animaux. Donc on est nombreux en France à avoir lancé un combat dès le début de l'année 2010 pour s'opposer à ce puçage électronique des brebis et des chèvres. Et moi, j'ai subi entre 2009 et 2013 quatre contrôles à répétition, un chaque année, puisqu'ils m'avaient pris déjà la main dans le sac d'une non-conformité au système d'étiquetage dès 2010. J'étais en fraude, du coup, en illégalité, en non-conformité ou en anomalie, comme ils disent sur les papiers, les formulaires. Donc j'ai fini par perdre le peu de primes européennes, ce qu'on appelle les primes PAC, que j'avais pour l'élevage de brebis. Déjà que c'était une petite économie, hein. J'étais maçon et couvreur par ailleurs, parce que c'était un petit élevage d'une cinquantaine de brebis qui permettait pas de fabriquer un revenu à lui tout seul. Donc sans les primes, vu que l'élevage de brebis pour la viande depuis plus de 30 ans est entièrement dépendant des aides européennes, bah pour moi l'économie commençait à être un peu ridicule. Du coup je me suis dit, voilà, vu qu'il y avait contrôle à répétition, menace de saisie de troupeaux si je continue, bah il faut que je fasse un choix, soit j'arrête, soit je passe dans la clandestinité, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrête de déclarer mon troupeau. Je le fais disparaître virtuellement, c'est-à-dire que l'administration n'en a plus connaissance. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais absolument pas envie d'arrêter mes relations avec mes bêtes. Et du coup, voilà, depuis 4-5 ans, mon troupeau est plus déclaré à l'administration. Ce qui fait que après j'ai plus d'aide, j'ai plus de sécurité sociale liée à l'élevage. J'ai plus le droit non plus, normalement, de vendre quoi que ce soit, en fait. Du coup, parce que je peux plus passer par les abattoirs. Donc en fait, j'ai réinstallé une économie paysanne qui était encore valable il y a quelques décennies, hein, avant que toutes ces normes nous tombent dessus. C'est-à-dire que du coup, on tue à la ferme, on découpe dans une cuisine aménagée.
Bella, viens Bella, Bella, viens au pied, au pied.
Le comble de cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, avec moins de brebis que ce que j'avais quand j'étais dans la légalité, bah, on gagne plus de sous, quoi. Vu que j'ai plus les frais d'abattoir, j'ai plus les frais d'étiquetage, j'ai plus les frais de MSA, enfin de Mutualité Sociale Agricole, bah du coup en fait on s'en sort mieux en fait dans cette économie-là, on est beaucoup plus heureux à faire ce qu'on fait parce qu'on est moins pris dans les contraintes, dans les obligations administratives. C'est un gros risque parce que l'administration, si elle nous retrouve, ça peut être des sanctions quand même non négligeables.
Vous risquez quoi?
Bon, en vrai, si on regarde les peines maximales, ça peut être de la prison, de lourdes amendes que j'ai pas évaluées. Mais du coup, voilà, vu qu'on prend des risques, l'idée c'est pas de se faire des martyrs, ni de s'enfermer dans une clandestinité silencieuse. C'est un outil pour nous de continuer à mener le combat contre cette normalisation industrielle des campagnes, de l'élevage, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de tuer à la ferme, de découper à la ferme au nom de la sacro-sainte sécurité sanitaire. Alors même qu'on sait très bien que dans des situations très proches des nôtres, les chasseurs, par exemple, ont, eux, une autorisation de forcément tuer leurs bêtes, mais aussi de découper chez eux et de vendre à des particuliers. D'un seul coup, la sécurité sanitaire n'existe plus pour les chasseurs. Et c'est ce combat-là qu'on a envie de mener, de cette supercherie des normes environnementales, des normes sanitaires, qu'on nous fait apparaître comme des outils de protection de la santé des consommateurs, de protection des petites fermes, qui sont des vrais outils d'industrialisation des campagnes.
Reste là. Pas bouger. Pas bouger. Non, pas bouger, Belle. Ça a dû jusqu'à une cinquantaine de brebis. Là, il y en a à peine 30. Le bélier est en train de se gratter. C'est une race écossaise, Blackface.
C'est ces brebis-là qui officiellement n'existent pas.
C'est ça, pourtant elles ont l'air bien heureuses ici, mais...
Comment on disparaît comme ça? C'est pas évident quand on a un troupeau de 50 bêtes.
Il n'y a pas 36 solutions. C'est la manière d'arrêter, c'est d'avoir vendu le troupeau. Vu que je ne l'ai pas vendu, il fallait que je fasse des fausses factures quoi, de vente de mes brebis. Donc pour faire des fausses factures qui n'engagent personne, en fait, j'y ai mis des faux noms quoi, et des fausses adresses. Et voilà, tout simplement.
Aujourd'hui, vous vendez par exemple à qui?
Nous, on vend à la ferme, essentiellement. Enfin, en tout cas, les animaux, c'est que à la ferme, de bouche à oreille. Et voilà, ça suffit largement, parce que j'ai prétention de faire une viande de qualité, et que du coup, les gens reviennent très facilement vers nous.
En sachant...
Oui, la plupart. Il y a peut-être quelques exceptions de gens qui sont pas des clients réguliers, qui connaissent pas notre situation. Mais tous les autres sont au courant du fait qu'on a disparu des tablettes de l'administration et qu'on l'assume et qu'on du coup on tue à la ferme, qu'on découpe à la ferme et qu'on y fait très attention, bien plus attention que n'importe quel abattoir, parce qu'on a les conditions idéales. En fait, il y a aucune concentration d'animaux dans un même espace. On tue en plein air, ce qui fait qu'il y a aucun risque microbien. Donc c'est sûr qu'il faut du temps pour que les gens comprennent notre propos. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que la plupart des consommateurs, la seule manière aujourd'hui qu'ils ont de se rassurer, c'est l'étiquette, c'est l'emballage, d'avoir un label. Et nous, on vient dire que tout ça est de la poudre aux yeux. Les appellations d'origine contrôlée, à chaque fois qu'une AOC s'est emparée d'un savoir-faire paysan, c'était pour le standardiser de manière industrielle. Et on appelle ça, les appellations d'origine contrôlée, la défense d'un savoir-faire paysan. Non, c'est faux. C'est un processus d'industrialisation de l'agriculture, comme tous les autres formes de normalisation, quoi.
Ah oui, attends, je vais l'allumer ailleurs. Reviens. Ça va, Marie? Ça a passé une bonne journée?
Oui. On va y aller. Ah, il y a des petits cochons, là.
Ouais.
Il y a trois grandes serres. Et vous, pourquoi vous aviez décidé de devenir un paysan?
Parce que je vois aucune autre possibilité de fréquenter un peu un plaisir d'être dans cette société que de travailler la terre, vivre avec les animaux, avec les végétaux, et une volonté aussi de sortir de cette société industrielle, en fait, qui est pour moi mortifère, étouffante. C'est pour ça aussi qu'être paysan, pour moi, c'est une lutte, c'est un combat. C'est forcément être au premier plan du conflit qui a mené avec cette société si on veut sortir de cet étouffement, quoi.
Alors du coup, est-ce que pour vous, il y aurait un moyen de rentrer dans les clous en continuant de faire votre métier de paysan, ou le fait que vous vouliez travailler comme vous travaillez fait que vous êtes condamné à l'illégalité
Pour moi, c'est sûr, refaire le chemin inverse vers la légalisation de mon troupeau, ça serait sans doute abandonner beaucoup trop de choses qui me tiennent à cœur pour que je le fasse. C'est-à-dire d'accepter d'accompagner nos bêtes jusqu'à la mort, les tuer, les découper, d'avoir le plaisir de faire ce travail de boucherie. Pour moi, c'est un vrai plaisir de travailler la viande, de la manger, et que j'ai pas du tout envie de perdre cette possibilité-là. Donc pour moi, c'est sûr, refaire le chemin inverse vers la légalisation de mon troupeau, ça serait sans doute abandonner beaucoup trop de choses qui me tiennent à cœur pour que je le fasse. Après voilà, il y a plein d'éleveurs qui font un super boulot et qui restent dans les clous et qui arrivent à jouer en fait entre les gouttes. Sauf que il y a déjà plein de choses qui sont plus possibles. Ces petits élevages comme j'ai moi, comme il y a encore 15 ans, on en croisait sur le marché des petites dames proches de la retraite ou ayant passé l'âge de la retraite qui amenaient leurs volailles découpées dans leur cuisine. Il y a encore 15 ans, c'était légal en fait. Il n'y avait pas cette phobie hygiéniste complètement folle. Donc c'est une bataille, c'est miser sur le fait que l'administration n'ait pas les moyens de ses intentions, c'est-à-dire que des fois elle laisse tomber les contrôles ou les sanctions. Des fois on continue à être paysan en misant sur le fait que l'administration n'a pas les moyens de ses intentions.
Non, pas bouger, Belle.
Personne ne se révolte, du coup on se laisse grignoter nos vies, nos autonomies, nos libertés, à chaque fois un peu plus, quoi.
Voilà, les vies françaises. Portrait sonore signé Charlotte Perry cette saison encore. Et merci à Céline Hilla qui a réalisé ce reportage. Dans un instant, ce sera la revue des expos de Patricia Martin.